un Français nommé Gabin.
Moi, je suis pas historien.
Gabin, président.
Son histoire et sa vie vont se confondre avec l'histoire de France et du cinéma. De la 3e à la 5e République, Jean Gabin incarnera le pays, la France des villes et des champs de bataille, la France des fermes et des usines, la France des cafés et des épiceries, des ports et des faubourgs. Les Français se reconnaîtront en Gabin.
Si on comptait ceux qui le rejoignirent dans les urnes, dans les salles, autour de la sortie de ses 95 films, à quel chiffre parviendrait-on ? 100 millions ? Sans enregistrer les téléspectateurs. Il avait toutes les qualités requises pour attirer la lumière. Bagarreur, il avait fait une belle guerre. Séducteur, son idylle avec Michel Morgan, puis sa plus longue liaison encore avec Marlène Dietrich, prêtait au rêve. Propriétaire, dans l'orne, d'une grande exploitation qu'il menait lui-même. Les paysans alentour le regardaient souvent comme un cumulard, mais il y avait assez de paille et de grains dans sa biographie pour attirer l'attention des citadins. Et n'oublions pas qu'il avait aussi l'expérience du monde. Exemple, le Yangtze-Kiang, monsieur, c'est pas un fleuve, mais une avenue, avec des jonques et des sampans de chaque côté, j'y suis allé. Et sa vigilance en économie. Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. On disait de lui qu'il était l'absence de jeu personnifié. Une telle présence méritait toutes les présidences.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Et c'est toujours bien d'afficher, au commencement, une expérience riche de jeunes pauvres. Il disait avoir rêvé enfant d'être fermier, mais aussi conducteur de locomotive. Élève dissipé, Jean Moncorgé a exercé brièvement des métiers modestes, cimentier, manœuvre, magasinier, avant de devenir artiste de music-hall et d'être appelé par le cinéma à l'avènement du parlant. Jacques Prévert.
La voix de Jean Gabin est vraie. C'est la voix de son regard, la voix des gestes de ses mains. Tout marche ensemble. Jean Gabin est synchrone de la tête aux pieds. L'acteur le plus fragile et le plus solide en même temps, sobre comme le vin rouge, simple comme une tache de sang et parfois gai comme le petit vin blanc, il joue comme dans la vie secrète, mystérieuse et rêvée. Jean Gabin, c'est l'évidence même d'un être humain qui joue son rôle publiquement devant tant d'autres qui jouent le leur secrètement et si mal la plupart du temps. Jean Gabin, toujours le même, jamais pareil, toujours Jean Gabin, toujours quelqu'un.
Et inutile de rappeler des évidences, Pépé le Moko, La Grande Illusion, Cas des Brumes. À la fin des années 30, Gabin, c'est une étoile. Et pour la gauche, parlons politique, une figure de proue, la belle équipe, la bête humaine. Marcel Carnet, qui tourna avec lui Le Jour se lève, sorti en 1939.
Gabin a une telle personnalité qu'il faut tout de même ramener le personnage un petit peu à lui. C'est un peu un héros type, Gabin. Enfin, je parle surtout du Gabin à l'âge qu'il avait avant la guerre. Et c'est un garçon qui plonge dans le peuple, qui a ses racines dans le peuple. C'est d'autre part un très brave type, mais c'est aussi un type violent et un peu exalté. Et il y a tout de même un certain rapport entre le comportement du déserteur de Quai des Brumes et de l'ouvrier du Jour se lève.
Tiens, les fleurs, ça c'est gentil. C'est pour ma fête.
Comment ? Vous vous appelez François ?
Ah, t'as trouvé ça toute seule, toi ?
Bah, c'est pas difficile, je m'appelle Françoise, moi aussi.
Sans blague, bah c'est notre fête à tous les deux, alors.
Bah oui.
Alors c'est pour qui, les fleurs ?
Oh, c'est pas pour nous. Je venais les livrer. Et puis je me suis perdue dans l'usine.
À qui tu dois les livrer ?
Chez une cliente, Madame Le Gardier.
Oh, bah je comprends que tu t'es trompé de pavillon. C'est la femme du sous-directeur. Elle vient jamais ici, Madame Le Gardier, jamais. Viens voir, je vais te montrer où c'est. Tu vas aller tout droit. Tu vois le grand hangar là-bas?
Oui.
Tu vas tourner à gauche derrière. Et puis tout au bout, tu vas voir un jardin avec une belle petite maison. Et bien c'est là.
Ah bon?
Voilà.
Merci.
T'es encore là? Tu vas prendre racine? T'es mignonne avec tes fleurs comme ça dans le bras. Tu ressembles à un petit arbre. C'est le métier qui t'intéresse. Un joli travail, hein. Ah, qu'est-ce que tu veux, le travail, c'est la liberté. Et puis c'est la santé.
Et un peu après, oh, c'est pas grand chez toi. C'est joli chez toi. C'est quand même tout petit chez toi. La déclaration de la guerre interrompt la carrière de Jours-Solèvre. Pas question de théâtre aux armées pour Gabin, c'est pas son genre. Il part pour ce qu'il appelle la riflette et il rejoint son poste de second maître chez les fusiliers marins. Vient juin 1940, un extrait du commentaire du film de François Aimé et Yves Geland que nous saluons et qui sera diffusé demain sur France 3.
Jean est désemparé, la France n'est plus la France. La Continental, firme du cinéma allemand, le courtise. Il est alors l'acteur le mieux payé d'Europe. Mais rien n'y fait. Il refuse de travailler pour l'occupant. La patrie avant le cinéma. Maréchal Pétain, Pétrin, écrit-il à une amie. La France s'est trahie. Il la quitte.
Pas pour des raisons de cinéma d'ailleurs, mais pour d'autres raisons qui m'étaient tout à fait personnelles, des raisons guerrières, si j'ose dire. Je m'étais barré, non pas pour le plaisir d'aller en Amérique, je le dis franchement. Mais je voulais pas venir travailler à Paris à cette époque-là. Je suis parti, quoi. J'ai eu l'occasion de partir, je suis parti.
En janvier 1944, l'officier d'armes Montcorgé embarque à bord d'un escorteur de pétroliers militaires, direction Alger. Je ne me sentais pas l'âme d'un héros, mais je ne pouvais pas rester les mains dans les poches, continuer de faire des grimaces devant une caméra et attendre tranquillement que les autres se fassent descendre pour que je revoie un jour Matelin. Retrouver des copains qui, eux, y seraient allés à la riflette et me contenter de leur dire « Me revoilà les potes, et vous, comment ça va ?» C'est pour ça que je suis parti la faire, cette putain de guerre. Et la trouille au ventre, en plus. La traversée de l'Atlantique est périlleuse. La guerre, c'est pas du cinéma. Et alors qu'enfin Alger est en vue, au large du Cap Ténès, l'équipé essuie le feu des bombardements allemands. Une nuit entière. Plusieurs bateaux s'enflamment, des embarcations coulent. Le lendemain matin, Jean Montcorgé est vivant, mais ses cheveux sont devenus blancs.
Sur la période d'entre deux carrières qui va suivre, au milieu de laquelle elle est née d'ailleurs, le témoignage de la fille de Gabin, Florence Montcorgé.
Entre 45 et 55, où la nouvelle vague allait commencer, il y a très peu de temps, hein, il y a 10 ans. Et pendant ces 10 ans, il a galéré parce qu'il n'a pas retrouvé l'image que le public français avait de lui avant-guerre. Cette image-là, il ne l'a jamais retrouvée, il ne la retrouvera jamais. Il a fallu qu'il retrouve un autre personnage et un autre metteur en scène pour pouvoir faire sa seconde carrière. Il a fallu attendre le film de Becker, « Touchez pas au Grisby », pour que tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, toujours la même chose, un acteur rencontre un metteur en scène et un personnage. Il a rencontré ce personnage de Max, le truand, et c'est un truc qui a fait mouche. Gabin s'était épaissi, il s'était marié, il avait eu des enfants, il avait changé de vie, il avait changé, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon livre, j'ai dit à chaque enfant il prenait un tour de ceinture de plus, un trou de ceinture de plus, donc effectivement il prenait de l'embonpoint. Mais c'est cet embonpoint qui lui a permis, petit à petit, d'accéder au rôle qu'il a eu après.
Et les gens croient que c'est reparti après le Grisby, c'est pas vrai, c'est reparti un an après le Grisby. Non, puis où c'est bien reparti, c'est à partir des grandes familles.
Justement, à cet âge-là, on passe la main. Tiens, cet après-midi, quand il a vu ma maquette, crois-tu qu'il a compris ?
Pourquoi ?
Bon, plutôt, il a fait semblant de ne pas comprendre parce que l'idée n'était pas de lui. Non. Tout ce qui ne vient pas de lui est sujet à caution. Moi, j'en ai plein le dos. Et cette fois-ci, je me suis pas gêné. Je lui ai dit ce que je pensais de ses méthodes. Je lui ai dit mon opinion sur le journal. Et par la même occasion, je lui ai dit que...
Tu lui as dit quoi ? Tu lui as dit quoi ?
Comme je suppose que vous venez d'écouter.
C'est même la deuxième fois de la journée. Car cet après-midi aussi, je t'ai écouté. Gentiment, sagement, parce que nous n'étions pas seuls.
Ne me dites pas que la chaume nous gênait.
Il est toujours gênant devant les étrangers de traiter son fils de morveux. Oui, de morveux.
Je ne vous permets pas.
Tu n'as rien à me permettre. Ni à mon journal, ni chez moi. Pour permettre, il faut pouvoir interdire. Il faut être le patron. Et le patron, c'est moi. N'oublie pas que tu es le fichu de l'air, hein, quoi, c'est tout. Tout ce que tu as été dans ton berceau et tout ce que tu es, c'est moi qui l'ai payé. Car j'ai tout payé. y compris ta sortie de Polytechnique, ta Légion d'honneur et ta femme.
Mon père, je vous en prie.
Quoi, mon père? Je sais que vous l'aimez, qu'il vous aime, mais est-ce que Jacqueline de Magnac-Laval aurait épousé le fils d'un balayeur? Hein? Non, alors? C'est comme tailleur, je ne dis pas que tu ne l'as pas faite.
C'est vrai?
Oui, mais tu l'as faite dans un escadron de fils d'archevêque, avec des bottes payées par papa.
Ah non, ça suffit! Ma blessure aussi, c'est peut-être vous qui l'avez payée. Il est vrai que vous auriez sans doute été prêt à le faire. En 44, un héros dans la famille, c'était pas du luxe.
Un héros, mais il y croit, ma parole! Mais il y croit! Et toi bien que si j'avais eu besoin d'un héros, comme tu le laisses entendre, j'en aurais fabriqué un qui soit plus représentatif. Un de ceux qui flattent les familles et qui n'emmerdent personne. Un faux.
Vous trouvez pas cette forme de cynisme un peu écœurante?
Quand mon fils vous disait tout à l'heure si plaisamment que j'étais un homme usé, un sénile, vous aviez le cœur mieux accroché, hein? Bonsoir.
Le film de Denis de la Patellière avec Jean de Sailly dans le rôle du fils, Françoise Christophe dans le rôle de la belle-fille. Donc le personnage du chef devient celui qui convient naturellement, dorénavant, à Gabin, qui est un massif à partir de ces années-là, chef d'entreprise, mais aussi bien chef de clan, qui prend en affection quelques jeunes pousses, ici avec Delon dans Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil.
Dis donc, puisqu'on parle chiffon, il va falloir que tu t'habilles.
Oh, j'ai rien contre. Justement, je connais un petit tailleur hongrois drôlement capable.
Eh ben, si ça te fait rien, on laissera tomber ton artiste et on ira chez le mien.
D'accord. Tu sais que t'es sapé comme un banquier. Enfin, moi, c'est comme ça que je les vois.
Peut-être, mais pour toi, on fera la coupe fils de famille. Je te donnerai les faves de ton nouveau pédigré.
Aujourd'hui, faut être bien mis. On fait bien meilleure figure. Quand on a de beaux habits, visez donc un peu le chic de mes gants et le chic de ma jaquette. C'est chouette d'être un monsieur. Visez donc mes bouts vernis, mon grappant de chez Ribi. Visez mes chaussettes et cette perlouse de prix. J'ai de beaux caleçons, c'est pas en coton qu'ils sont. Visez donc ma batte, cravate de pygmaillon. Et ce diamé dit jute, il vous en fout plein les yeux. Y'a pas on en jette, c'est chouette d'être un monsieur. Pour que les gens vous considèrent, suffit pas d'un beau complet. Faut aussi les belles manières, et comment que moi je les ai. Visez donc un peu ce petit jus que j'ai quand je tire ma cigarette. C'est chouette d'être un monsieur. Visez donc un peu ce maintien, en marchant ce que je la fous bien. J'ai-t-il la prestance, l'aisance, chic parisien.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Vous aurez compris que nous parlons encore, mais à notre façon, de l'élection présidentielle demain. Sur France 3, FR 3, faut-il dire, un Français nommé Jean Gabin. C'est un film d'Aimé et Jelan qui nous a donné l'idée de mettre sur le podium l'acteur qui était aussi, c'est un avantage ça, éleveur dans l'Orne, dans une exploitation près de Moulins-la-Marche, qu'il avait nommé la Montcorgerie. Il avait aussi des poulains à Paris, tel Lino Ventura qu'on entend ici avec Bernard Blier et Michel Audiard.
J'aime beaucoup Gabin.
Moi aussi. Le premier jour où je suis arrivé au studio, je suis arrivé avec ma valise à la main, et je ne sais pas pourquoi, je suis arrivé avec un espèce de réflexe d'autodéfense imbécile, en disant le premier qui me kikine, j'ai mis mon poing dans la gueule, je retourne chez moi. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais lâché ma valise, j'ai demandé à voir Gabin. Alors on me disait, il est dans sa loge, vous le verrez tout à l'heure. Je dis non, moi c'est tout de suite que je veux le voir. Et au bout de la dixième personne, il y a un petit assistant qui est à l'époque, était Jean Becker, qui m'amène dans la loge de Gabin, son habilleuse bourre. Elle me dit, il y a un monsieur qui vous voit, monsieur Ventura. Il avait vu les essais que j'avais fait pour le film, que Jacques Becker lui avait montré. Et ce qu'il y a d'étonnant, et je crois que c'est uniquement à cause de ça qu'aujourd'hui je fais du cinéma, il ne m'a pas demandé pourquoi je voulais le voir. Il m'a regardé. Il était avec ses bretelles qui pendaient encore, là. Et il me dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Il me dit, alors, tout à l'heure, Eh ben, je disais ça tout à l'heure. Voilà à quoi ça tient.
Ouais.
Tout le monde sait ce que je pense du vieux, quoi, c'est...
Parce que l'appelait le vieux,
toi. Oui.
Ah oui, on l'appelle...
Moi, je l'appelle monsieur le maire.
Ah bon?
Monsieur le maire, oui.
Quelques années plus tard, la petite ville de Montreuil-sur-Mer, dans le nord de la France, prit un essor inattendu. Un humble artisan, venu on ne savait d'où, monsieur Madeleine, appliquait à l'industrie des bijoux de jais un nouveau procédé de fabrication.
Votre industrie a apporté la prospérité à toute la région. Votre grand cœur y pourchasse la misère, l'ignorance et la maladie. En considération de ses services, et malgré votre répugnance bien connue pour les honneurs, au nom de Sa Majesté, je vous nomme maire de Montreuil-sur-Mer.
Monsieur le maire, j'ai tenu à me présenter à vous dès mon arrivée ici. Je suis le nouvel inspecteur de police.
Je vous attendais. Vous dirigerez la police municipale directement sous mes ordres.
J'en serai fier.
Comment vous appelez-vous ?
Inspecteur Javert.
Maire sous la monarchie de Juillet, viendra le temps sous la République de la présidence. L'âge est venu pour Gabin. Il a une telle force qu'il n'a pas besoin de mouvement. Les éléments viennent à lui comme un aimant. Il hoche la tête, il chante entre les dents.
Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça je le sais.
Dans Le Président, on y vient, d'Henri Verneuil, toujours. Gabin a 73 ans, c'est un homme d'État à la retraite. Il a la silhouette de Clémenceau, moustache au vent, cap sur les épaules, mais lui dispose d'un château. La grille s'en ouvre parfois, laissant passer la voiture d'un solliciteur qui vient chercher une onction, ou mieux, celle d'un père, P.A.I.R., des temps anciens.
Nous sommes maintenant devant le Premier ministre britannique. Monsieur le Premier ministre, assisterez-vous au déjeuner du Quai d'Orsay ?
Bien entendu.
Bien entendu. Quel sera votre emploi du temps ?
Monsieur le Premier ministre a l'intention de rendre une visite de caractère tout à fait privé.
Je vais voir un ami, un très vieil ami.
Introduce you, Mr. Mann.
How do you do, Mr.
How do you
President?
Do? Please.
Visite d'amitié ou démarche politique?
Pourquoi pas d'amitié? Ils ont gouverné le monde pendant 30 ans. Ça crée des liens, tu penses?
Ils doivent bien avoir 150 ans, eux deux, hein?
Tu m'enlèveras pas de l'idée que si l'anglais est là, c'est pour demander aux vieux de revenir.
Pourquoi?
Pour sortir des impasses. Parce qu'on y est dans les impasses. Et puis peut-être aussi pour emmerder les Russes.
Mais c'est que ça leur fout aux Russes. Beaufort a toujours été de gauche.
Il y a gauche et gauche.
Oh. S'ils sont enfermés tous les deux, c'est qu'ils ont des choses à se dire.
Quelles choses?
Les fusées, les spoutniks, la bombe atomique, enfin tout ça, quoi.
First, you've got to have a ship's head and some offal. That's very important. Now, the crayfish come along very slowly. And as soon as they had the meat, up then with the net.
Où on voit que Marlène Dietrich a appris l'anglais à Hollywood, à Gabin. Les jours ordinaires en son château, le président Beaufort dicte ses mémoires. Le verbe est assez haut en couleur. Exemple, depuis mon veuvage, je me suis seulement adressé aux maisons closes et aux théâtres subventionnés. Il se trouve que la secrétaire est interprétée par René Faure, sociétaire de la Comédie-Française.
Bonjour, Monsieur le Président.
Bonjour.
Vous ne trouvez pas, Monsieur le Président, que Sœur Mary l'a vieilli?
Oh, parce qu'il y a très longtemps que vous ne l'avez pas vu. Les vieillards, c'est comme les bébés, ça change très vite. Moi, je ne crains rien, vous me voyez tous les jours. Bon, alors allons-y.
Vous ne préférez pas vous reposer?
Me reposer de quoi? Le repos est fait pour les jeunes, ils ont toute la vie devant eux, moi pas. Où en étions-nous restés hier?
On ne gouverne pas sans quelques inimitiés. Tout homme de pouvoir devrait s'imprégner de cette maxime qui, en vertu d'un étrange paradoxe, est la notion même du bien public.
Bon, alors écrivez en tête de chapitre les années difficiles. Vous y êtes?
Voilà.
Je crois avoir été un des hommes les plus détestés de son époque. Ce fut longtemps mon chagrin. C'est aujourd'hui mon orgueil. Je suis républicain depuis que je respire. Et pourtant, au cours de 40 années de vie politique, j'ai eu le privilège d'avoir été traité de despote oriental par les socialistes, de voyou moscoutaire par l'Action française, de valet de Wall Street par les syndicalistes et de faux monnayeurs par la haute banque. Voilà pour mes adversaires. Quant à mes amis, les amis n'aiment pas être fidèles. Ils ont l'impression de perdre leur personnalité. Quant à mes amis donc, ils se contentèrent de me taxer d'ambition et d'intransigeance. Deux appellations que je revendique. J'ai toujours été, en effet, extrêmement ambitieux du destin de mon pays et intransigeant sur la manière de le voir s'accomplir.
Puissance, sans tâche, incorruptible, le président préférait rompre plutôt que de céder. Le morceau de bravoure des mémoires qu'il dicte, c'est le récit de sa dernière séance à la Chambre. Le thème en est prémonitoire. L'Europe. La scène a nécessité 54 prises. C'est une des plus longues tirades que Gabin ait eu à dire.
La parole est à Monsieur le Président du Conseil.
Messieurs, Monsieur Chalamont vient d'évoquer en termes émouvants les victimes de la guerre. Je m'associe d'autant plus volontiers à cet hommage qu'il s'adresse à ceux qui furent les meilleurs de mes compagnons. Au moment de Verdun, M. Chalamont avait 10 ans, ce qui lui donne par conséquent le droit d'en parler. Étant présent sur le théâtre des opérations, je ne saurais prétendre à la même objectivité. On a une mauvaise vue d'ensemble quand on voit les choses de trop près. M. Chalamont parle d'1 500 000 morts. Personnellement, je ne pourrais en citer qu'une poignée. Tombez tout près de moi. J'ai honte, messieurs, mais je voulais montrer, Monsieur Chalamont, que je peux moi aussi faire voter les morts. Le procédé est assez méprisable, croyez-moi. Moi aussi, j'ai un dossier complet, 300 pages. 300 pages de bilan et de statistiques que j'avais préparées à votre intention. Mais en écoutant Monsieur Chalamont, je viens de m'apercevoir que le langage des chiffres a ceci de commun avec le langage des fleurs. On lui fait dire ce que l'on veut. Les chiffres parlent, mais ne crient jamais. C'est pourquoi il n'empêche pas les amis de M. Chalamont de dormir. Ouais. Permettez-moi, messieurs, de préférer le langage des hommes. Je le comprends mieux. Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction, je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Des populations jetées sur les routes, des enfants jetés dans la guerre, des vainqueurs et des vaincus finalement réconciliés dans des cimetières, que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. La paix revenue, j'ai visité des mines. J'ai vu la police chargée des grévistes, je l'ai vu aussi chargée des chômeurs. J'ai vu la richesse de certaines contrées et l'incroyable pauvreté de certaines autres. Eh bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque, à y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.
Nous penserons d'abord à la France.
Mais vous n'avez pas le monopole de l'Europe, nous y pensons aussi.
parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose.
Gabin est mort avant d'atteindre l'âge du président Beaufort. « Vous me balancerez à la flotte », avait-il dit. Ce fut fait au large d'Ouessant, le 19 novembre 1976.
Et maintenant, permettez-moi de conclure. Le gouvernement maintient son projet. La majorité lui refusera la confiance et il se retirera. Il y était préparé en entrant ici. J'ajouterai simplement pour quelques-uns d'entre vous. Réjouissez-vous, fêtez votre victoire, vous n'entendrez plus jamais ma voix. Et vous n'aurez jamais plus à marcher derrière moi. Jusqu'au jour de mes funérailles. Funérailles nationales que vous voterez d'ailleurs à l'unanimité. Et ce dont je vous remercie par anticipation.
Il faisait frais mais beau ce matin quand l'aviso Détroya de la marine nationale a quitté son coffre dans l'arsenal de Brest pour rejoindre la haute mer. À son bord, peu de monde, selon la volonté du défunt. Madame Dominique Montcorgé, la grande ou maman, comme l'appelait familièrement Jean Gabin, très ému son fils Mathias, ses deux filles, quelques intimes, et des amis de longue date comme le réalisateur Gilles Grangier, Alain Delon ou encore l'amiral Gélinet, et aussi une petite urne de plomb contenant quelques cendres. Pas de cérémonie officielle, pas de cérémonie militaire, mais un hommage particulier rendu à un homme d'une étonnante stature qui fut en son temps l'un des combattants de la Royale, le second maître Montcorgé, officier dans l'ordre du mérite, officier de la Légion d'honneur, médaillé militaire, croix de guerre. Quelques violettes dispersées au vent par l'une des filles de Jean Gabin et un long moment de recueillement ont marqué cette cérémonie qui se voulait discrète et qui le fut. Jean Gabin avait choisi la mer pour reposer de son dernier sommeil. Les marins lui ont rendu cet hommage. Il reste que l'on ne peut dénier le caractère exceptionnel de cette cérémonie. C'est en effet la première fois qu'un civil bénéficie de ses égards, réservé habituellement aux amiraux tués au feu. C'est dire la dimension du personnage, ce grand du cinéma, qui toute sa vie durant s'est attaché à cette simplicité, à cette pudeur qui le rendait si humain. Jean Gabin n'est plus, mais chaque jour la mer sera là pour le rappeler à notre souvenir.
Demain sur FR3, un Français nommé Gabin. Cette émission a été préparée par Martin Cellier avec à la technique Gilles Gaillard et à la réalisation Valérie Aestaraï. Et chez vous, Mathieu?
Dans la tête au carré, Jean, nous allons découvrir le monde de la cristallographie pour explorer ensemble un nouvel aspect de la nature.
À tout à l'heure.